Marie-France, encore des cas de maltraitance qui nous ont été présentés, exposés envers les aînés cette semaine. La nouvelle ministre, Marguerite Blais, je dis la nouvelle ministre parce que, évidemment, elle a été ministre libérale, responsable des aînés, maintenant ministre caquiste, responsable des aînés. Elle a beaucoup de travail devant elle.
Exactement. Elle est sortie vraiment partout pour dire son indignation, pour dire que c'en était assez. Les cas, c'est à la bien nommée résidence L'Éden à Laval. Et ça arrive après bien d'autres cas. Et on a souvent dans ce genre d'affaires-là, Paul, un sentiment de répétition inéluctable, un sentiment d'impuissance. La nouveauté, c'est vraiment l'indignation et la sincérité de Marguerite Blais, qui a parlé de sanctions pénales. C'était plutôt frais, plutôt nouveau comme discours. Elle a parlé de l'imputabilité qui s'appliquerait aux propriétaires de résidences privées. Elle a dit « il faut mieux former, il faut mieux payer les préposés », ce en quoi elle a parfaitement raison, mais ça faisait vraiment du bien de l'entendre de la bouche d'une ministre plutôt que des tergiversations auxquelles on est habitué. Mais je me suis posé la question parce que cette situation-là, on l'a vu maintes et maintes fois, on se souvient tous de l'épisode des patates en poudre. Pourquoi est-ce que ça revient si souvent, mais chaque fois en pire et dans une mer d'indifférence de plus en plus profonde. Et puis, je te parle pas juste de depuis 5 ans, depuis 20 ans au moins, et même avant, pour les plus vieux, on se souvient qu'on parle toujours du problème des résidences et des mauvais soins qu'on fait à nos aînés. Alors, les gouvernements successifs et le gouvernement libéral dont Mme Blais a fait partie ont négligé les soins aux aînés. Ils réagissent vraiment, ils ont réagi par à-coup. Par exemple, quand le vérificateur général ou le protecteur du citoyen dresse un catalogue des horreurs à chaque fin d'année, quand le Journal de Montréal fait 4 pages pendant 3 jours sur les fameuses patates en poudre, les gouvernements ont privatisé en partie des soins, ils ont recours à des services privés qui sont payés par des fonds publics, et là, dans beaucoup de soins aux aînés, on perd le fil, on perd le contrôle, on ne sait plus trop qui s'occupe de qui et comment, et pendant des années, on a appauvri ainsi les services sociaux. Et je rajouterais cette chose dont on ne parle pas souvent, on ne tient pas en haute estime les vieux. C'est une clientèle, entre guillemets, muette, sans défense, sans grand moyen pour faire entendre sa voix. Alors, du coup, comme diraient les Français, on ne valorise pas ceux et celles qui s'en occupent. Alors, non seulement les vieux sont vraiment tenus pour quantité négligeable, mais les préposés ne se sentent pas très, très valorisés dans leur job non plus. Puis j'irai plus loin, Paul, nous et les aînés. On ne veut pas voir la vieillesse, on s'en détourne, on se détourne de la même manière des proches aidants parce que souvent ils ont affaire avec la vieillesse. C'est un miroir de ce qui va nous arriver et on n'aime vraiment pas ça. Là, je suis dans la psychologie, là, mais je pense vraiment que ça joue. On est coupé aussi en grande partie du lien familial. On a des vies compliquées, on n'a pas le temps d'aller voir les aînés, de s'en occuper. Et on croit que nous, par miracle, quand on sera vieux, quand on aura atteint cet âge-là, comme on est plus brillant, on s'arrangera certainement mieux par magie et par la voix des licornes. Alors, comme société, on deal assez mal avec l'âge, avec le grand âge, avec la déchéance. On détourne notre regard, ce qui permet évidemment beaucoup d'abus sur le dos des personnes âgées. Alors, on espère beaucoup de la CAQ, d'abord parce que Mme Blais, souviens-toi, elle était quasiment nommée avant d'être élue. Il y a aussi tout ce trio qui va s'occuper, je pense à Daniel Mécan à la santé, Lionel Carman aux services sociaux, ainsi que Marguerite Blais aux aînés et aux proches aidants. François Legault a parlé en campagne électorale de ces fameuses maisons pour aînés qui verront évidemment pas le jour dans son premier mandat.
Mais c'était une grande promesse électorale.
Absolument, c'était une promesse, tout à fait.
Il y avait la promesse de faire construire, je me rappelle très bien cette promesse-là, fin août, là, pendant la campagne électorale, 35 maisons neuves par année.
Oui, je me souviens des plans, oui.
Tu te rappelles? Absolument. Par année, entre 2022 et 2038, oui. Pour une facture avoisinant les 20 milliards de dollars.
Oui.
Très grosse promesse.
Très grosse promesse, et il a fait de ce dossier-là une priorité. Alors, les espoirs sont grands. Ils se sont beaucoup avancés à la CAQ. Alors, est-ce qu'ils peuvent redresser, réorienter le système? Je le souhaite forcément parce que ça concerne tout le monde au Québec. Mais est-ce que, collectivement, au Québec, on est redevenu sensible à la question des aînés, tout comme dans le cas des écoles, et tout n'est pas réglé, peu s'en faut, mais à un moment donné, il y a quelques ans, ça fait pas très longtemps, on en a eu le ras-le-bol des écoles moisies, pourries, des mauvaises conditions faites aux profs, des enfants entassés trop nombreux dans les classes, des mauvaises conditions d'enseignement. On dirait qu'on a atteint un point de saturation en ce qui concerne les écoles et l'enseignement. Et peut-être qu'on est en train de l'avoir à propos des aînés, ce qui serait très bien, mais la CAQ ne peut pas échouer, mais il faut que nous, les familles, les parents, les citoyens en général, cessions de trouver ça normal, la maltraitance, et cessions de trouver que les aînés sont des citoyens de seconde zone. Il faut que la CAQ fasse quelque chose, elle l'a promis, mais nous devons changer notre regard sur les personnes âgées, je trouve.
Alors, le deuxième sujet, évidemment, nous sommes au cœur de l'actualité, oui. Au cours de la dernière demi-heure, nous allons recevoir celui qu'on appelait à la télévision le Grand Talbot. Danny Talbot, qui est le porte-parole du Salon international de l'auto de Montréal, dont on dit qu'il est peut-être encore plus intéressant que le fameux Salon de Détroit qui vient de se terminer.
Ça s'explique parce que Détroit, c'était évidemment le plus important en Amérique, sinon au monde. Il est devenu l'ombre de lui-même, d'abord parce qu'il y a eu la crise de 2008 et où les constructeurs automobiles ont été sauvés par la peau des dents par l'État et la ville elle-même est en faillite. Et surtout, l'automobile est en crise, et pas une crise de croissance, mais une crise de civilisation. En ce moment, ce qui marche très fort en Amérique du Nord et particulièrement aux États-Unis, ce sont les camions légers, les VUS, qui explosent littéralement, mais comme si c'était un dernier feu d'artifice, comme si c'était le Titanic. 2021, ça va être une année marquante, Paul. Les lois sur l'environnement vont être beaucoup plus sévères. On vendra de plus en plus d'hybrides, d'électriques. J'entendais encore aujourd'hui, à peu près tous les constructeurs classiques ont leur plan pour construire des électriques. Ça va des voitures de luxe, BM, Mercedes, AGM, tout le monde en a. Et on va le voir à Montréal, 42 nouveaux modèles électriques vont être présentés, en plus de tous les fournisseurs de services. La Chine se motorise, mais s'électrifie en même temps. Volkswagen, d'ici peu d'années, va être uniquement électrique. Alors, est-ce que c'est la fin de l'ère du char tel qu'on l'a connu? Je pense que oui. D'abord, tout le développement autour du pétrole, autour de l'industrie automobile conventionnelle qui a développé, puis on le sait au Canada avec Oshawa, on l'a connu il y a plusieurs années avec Sainte-Thérèse, des villes, des régions qui se sont développées autour de l'industrie automobile avec une culture de gros salaires, de gros syndicats très puissants, c'est vraiment la fin de ça. Il y a des dizaines de milliers d'emplois qui vont ou se perdent ou qui vont se recycler, qui étaient très dépendants de l'industrie. L'industrie va se développer, mais autrement, ce ne sera plus les mêmes usines, ce ne sera plus nécessairement les mêmes employés. On va vers une nouvelle géographie de l'emploi de l'automobile qui va se développer. Alors, ça va faire mal avant de faire du bien. Je te dirais aussi que dans notre rapport à l'automobile, on est à la fin de l'auto personnelle, à la fin de l'auto individuelle, avec tous ces systèmes de voitures en libre-service, de voitures partagées. On touche la fin de la propriété privée. Les milléniaux, tu le sais, ne se donnent même pas la peine d'avoir un permis de conduire.
C'est vrai.
On a un rapport très différent à l'auto. En ville, évidemment,
je connais beaucoup de milléniaux. Parce que les milléniaux, c'est, autrement dit, la génération de mes enfants.
Ben oui.
Et j'en ai un, mon aîné, ne conduit pas. Ça ne l'intéresse pas.
Ça ne les intéresse pas, exactement.
Pas tout. Mon neveu, ça ne l'intéresse pas. Ouais. Il jamais conduit.
Et il va avoir un impact, évidemment, un nombre moins grand d'automobiles. Et c'est la fin de la possession par les ménages, ça va avoir un impact à moyen terme sur l'architecture. Toutes ces maisons, dont ce qu'on voit avant tout, c'est la porte de garage.
Ou les deux portes de garage.
Les deux portes de garage, t'as raison, t'habites en banlieue, toi.
Non, mais quand oui, c'est pas trois.
Quand c'est pas trois, effectivement. L'urbanisme, l'étalement urbain va être pensé différemment. On construit déjà beaucoup, de manière beaucoup plus condensée, et même en banlieue, je pense à Laval, où on construit vraiment beaucoup de tours à condos. C'est la fin du sentiment d'accomplissement par l'auto. Mmh. L'auto qui est le prolongement de soi. Quand tu partages ton auto avec 26 autres amis, tu n'as plus le même rapport à l'auto.
Non.
Et évidemment, ce qui est le plus important, c'est l'intelligence artificielle. Dans 15 ans, la voiture autonome complète va être sur le marché. Et l'auto était liée à l'émancipation, à la fois pour les adolescents, aussitôt qu'ils avaient leur permis de conduire, ils avaient une certaine liberté. Pour les femmes également, dans l'histoire et même dans certains pays aujourd'hui. Alors, Alors que là, la voiture va être un mode de transport comme les autres et pas une possession privée. C'est révolutionnaire ce qui s'en vient avec l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, ça veut dire aussi probablement la fin de grands empires comme Ford, Chrysler, GM, Nissan, les GAFA, là, les Apple, Amazon et compagnie. Apple Car, c'est pour 2020 et en marché 2023, une voiture autonome créée par Apple. Les géants de l'intelligence artificielle vont devenir des producteurs d'auto et non plus les manufacturiers auxquels on est habitué. Donc, je te dis, si on va faire un tour au salon de l'auto en fin de semaine, j'ai l'impression que ça, on va avoir le feeling de se promener dans un monde déjà un peu vintage, déjà un peu dépassé. On est rendu ailleurs. Dans 10 ans, là, si on se reparle de l'avenir de l'auto, ça va être complètement différent.
Ben, écoute, je suis pas mal d'accord avec toi et je suis content que tu aies posé, que tu aies mis la nappe sur la table parce que Denis Talbot va venir nous parler justement
de ces caractéristiques. Ah, j'ai hâte de l'entendre.
Oui, et Benoît Charrette disait à Paul Arcand ce matin, vraiment notre salon, là, il est meilleur encore que celui de Détroit. Tu sais pourquoi?
Oui.
Pour les raisons que tu viens de décrire, c'est que ici, le salon de l'auto, c'est pas seulement de la grosse bagnole à essence.
Mm-hmm, exact.
À carburant traditionnel.
Ouais.
Il y a plein de développeurs, de batteries, de logiciels et tout ça, beaucoup plus avancés que le salon de Détroit maintenant.
Oui. Es-tu prêt, toi, pour l'auto autonome?
Oh, autonome. Écoute, quand j'étais ado, qu'est-ce que tu penses qu'on rêvait? C'était tout de suite de conduire.
Oui, oui.
Et je parlais de ça avec un freak de la route Michel Barrette.
Ben
on se parlait de ça, on était en Californie l'année passée, bon, on roulait. Ils disent, ils m'enlèveront jamais ça. Voyons donc, c'est notre vie conduire.
Ah, tu vois, c'est pour ça que je dis c'est une révolution.
Non,
c'est
une révolution. On aime ça conduire. On aime ça conduire des trucks, des autobus, des VR, de tout ce que tu veux. Ils peuvent pas nous enlever ça.
Un beau VR autonome, Paul.
Ah! Arrête! Là, écoute, je le prends. Je vais juste te répondre rapidement. Je le prendrais électrique, par exemple, demain matin.
Oui.
Oui, oui. S'il était 100% électrique, certainement je le prendrais. Mais autonome, ça m'enlèverait le plaisir de le conduire.
Moi qui adore conduire, je t'avoue que j'ai hâte à la voiture autonome.
Mais toi qui es italienne quand même, comment peux-tu parler contre la voiture? Hein?
Là, t'as un point.
Non, mais
ça. Ah, là, t'as un point.
J'ai plus qu'un point. Si tu gagnais à la loterie, comment t'échapperais à une Ferrari au moins?
Non, mais vraiment, moi, j'ai hâte à la voiture autonome. Je trouve ça fascinant, les problèmes que ça pose. Qui choisit-elle en cas d'accident? Son passager?
Non, mais le constat amiable.
Ah, ça vient de disparaître.
Deux voitures autonomes.
Oui.
Entre en collision. C'est quoi le constat amiable? Ben, en tout cas, on a du temps pour y penser.
Oui. Alors, on écoute Denis Talbot.
Oui, et couvre-toi bien en fin de semaine.
OK, oui.